redécouvrir Hélène Pedneaux. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneaux, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Première série, Les carnets du lac. Cinquième et dernier épisode. Septième carnet. Je recommence doucement à respirer par mes rives. La neige a été patiente cette année. Elle est tombée obstinément, sans l'aide du vent, et a tissé son épais tapis en couches fines. Mais l'hiver a abdiqué devant le printemps, une fois de plus. Sa sève est notre sang. Je dis notre, même si je n'ai ni sève ni sang, parce que j'en profite autant que les arbres et les castors. Grâce au printemps et avec lui, nous sommes la fête des sens. Toute la vie devrait être une fête des sens. La fidélité du printemps me touche davantage que celle des trois autres saisons. Il me reste bien une couche de glace, mais elle est fine comme un frimas frissonnant. Je vois le travail du soleil en transparence. Dans quelques heures, il me libérera de l'emprise du froid. Chacun suit son cours. L'existence de l'un est tributaire de l'existence des autres. C'est ainsi.
Si tu parles des passions, il y a aussi le Québec. Donc l'eau, la lutte contre la privatisation, et c'est pas rien. Tous les combats qu'elle a menés sont pires qu'actuels. Tu sais, j'y pense souvent comme ça. Ça me fend le cœur de me dire, mais elle serait folle de voir ce qui se passe, à tout point de vue. Mais vraiment à tout point de vue, parce que la sécheresse ou les inondations nous menacent de partout. Donc l'actualité, pas seulement des carnets du lac, mais de la coalition au secours, l'actualité de sa lutte aussi, parce que les dernières années, elle était quand même vent debout contre les intégrismes et les accommodements raisonnables et tout ça. Vraiment debout par rapport à tout ça. Si elle voyait ce qui se passe, mais je peux y penser tout le temps. Quel que soit le combat, tu vois qu'il est d'une actualité terrible. Et pas, c'est pas qu'elle était prophétique, du tout. Elle analysait les choses. Elles étaient déjà là.
Elle est revenue de la ville troublée, une fois encore. On dirait presque qu'elle va en ville pour se faire ébranler, tant elle doit chaque fois travailler à remettre son cœur en place quand elle en revient. À mon humble avis, elle est trop poreuse pour prendre un tel risque. Une femme qui ne peut pas vivre sans écrire lui a dit qu'elle avait perdu l'écriture. Impossible. Une femme qui est de la peau d'écriture lui a dit qu'elle avait perdu l'écriture. Chaque œuvre était pour elle une sorte de remise en ordre de son monde intérieur. C'était sur elle-même qu'elle travaillait en les forgeant, les assemblant, les polissant. C'était sans doute cette vérité que les alchimistes du Moyen-Âge avaient pressentie quand ils affirmaient que le grand œuvre n'était en fin de compte que la transformation intérieure de l'alchimiste lui-même. Il paraît que la femme rôdait dans sa maison, dans sa vieille robe de chambre de ratine rose sans ceinture, en la tenant fermée d'une main, une cigarette dans l'autre, pieds nus, en marmonnant qu'elle avait perdu l'écriture. Elle la cherchait partout. Du moins, c'est ainsi que la fille m'a rapporté le drame qui l'avait contaminée. Ce qu'elle ramène de la ville est toujours si incroyable. D'une fois à l'autre, je ne sais jamais si elle invente. Cette histoire me paraît bien difficile à croire. Est-ce qu'un lac perd ses réflexions? Jamais. Même quand il est mort, un lac continue de réfléchir. Je vois l'écriture de la même façon. On ne perd pas ses reflets, à moins d'être devenu un miroir sans teint à cause d'une maladie du sens, le sens étant chez eux le sang qui irrigue l'esprit. Nous sommes au printemps, mais peut-être que cette femme n'a pas accès à ses réflexions, comme moi en hiver. Chez les humains, ce sont les sentiments qui font la température, et les saisons intérieures ne correspondent pas toujours aux saisons extérieures. Certains mènent une double vie, ils peuvent avoir froid par 30 degrés à l'ombre ou crever de chaleur sous zéro. Ça dépend d'une absence, d'un microbe, d'un sourire ou d'une main. Leur vie est enracinée sur des impondérables, des hasards et des illusions. Pas étonnant qu'ils vacillent avec une telle facilité. L'été passé, un jour qu'elle avait envie de faire du mal à quelqu'un sans raison particulière, seulement parce qu'elle était mal dans sa peau à ce moment-là, ça leur arrive souvent, elle m'a lancé avec mépris « Tu n'es qu'un peu d'hydrogène et d'oxygène, deux portions d'hydrogène pour une portion d'oxygène. » Selon elle, toutes les eaux du globe s'appelleraient en réalité H2O. Nous ne serions qu'une vulgaire recette chimique, ce sont ces mots exacts, qu'ils peuvent reproduire en laboratoire tant qu'ils veulent. S'ils peuvent reproduire notre eau si facilement, pourquoi en manque-t-il dans autant de pays? Pourquoi tolèrent-ils autant de déserts et les laissent-ils s'étendre jusqu'à menacer la survie de centaines de millions des leurs? Elle a beau dire. De leur côté, quelle que soit la substance dont ils sont faits, ce n'est qu'un peu de chair et de souffle, et c'est cela qui gouverne. Leur vie ne tient qu'à un fil. Ils devraient régner avec plus d'humilité. C'est ce que je lui ai reflété. Elle est rentrée en claquant la porte.
On dit que l'humour, c'est la meilleure preuve de l'intelligence humaine, et j'en suis convaincue. Tu sais, ça prend un autre degré. Ça prend comprendre ce qui se passe, puis ensuite survoler au-dessus, puis en faire quelque chose. Donc, tout le monde peut rire tout en reconnaissant la difficulté de la situation qui est exposée. C'est un exploit, et Penneau le faisait brillamment.
Il paraît que nous, les eaux, sommes sur le point de devenir une vulgaire marchandise. Ils veulent changer notre eau en vin et nous mettre dans des bouteilles, des sacs, des bateaux et des portefeuilles. Au même moment, ils parlent de se rapprocher de nous. Ils cherchent la fluidité et disent qu'ils veulent renouer avec la nature. Mais aussitôt qu'ils ont un désir ou une passion, ils en font immédiatement une industrie. Ils ne savent faire que ça, depuis quelque temps, des industries. Même avec la musique, on dirait que c'est plus fort qu'eux. Voilà que nous faisons maintenant partie, m'a-t-elle dit, nous, les eaux, les forêts et les animaux, de l'industrie récréo-touristique. On dirait le nom d'une maladie incurable. Tout ça sans notre consentement. Et comme d'habitude, ce qui était au départ une belle et pure intention deviendra vite une belle extinction du désir. C'est toujours quand ils inventent une nouvelle industrie qu'ils se mettent à écrire des règlements partout, sur les murs, sur des panneaux, dans la tête des gens. Je commence à les connaître par cœur. Plus ils voltigent sur la haute finance, plus ils deviennent prévisibles. Ils se mettront à parler de gestion et de rentabilité, et tout sera vidé de son sens et moribond avant qu'ils aient fini de prononcer le mot « rationalisation ». Ils ne renouent pas, ils s'approprient. Il paraît aussi qu'ils veulent copier le vivant. Mettre des marques dessus et le vendre, parce que le vivant est trop aléatoire, insaisissable et imprévisible pour eux. Le vivant est indocile. Il n'apparaît pas quand ils veulent, comme ils veulent, dans la couleur, le sexe ou la quantité qu'ils veulent. Sont-ils donc en voie d'extinction? Avant que je connaisse la fille, j'aurais pensé que c'était plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne sais plus. Il me semble que je ne pourrai plus jamais les percevoir comme avant, uniquement comme des barbares inconscients. Tant que je comprendrai tout ce qui les concerne, je ne pourrai pas me désintéresser de leur sort. C'est irréversible maintenant. Après tout, s'ils se donnent du sang les uns aux autres pour survivre, ils ne peuvent pas être si mauvais que ça. Ce n'est pas que j'espère en eux, mais je ne perds pas patience. Après tout, l'espoir dispose de tant de terres abandonnées.
Elle s'était même fait un ventre dans sa maison. Elle appelait ça son utérus. C'était dans la cave. Elle allait écrire là, dans la cave. Moi, j'aurais été claustrophobe là-dedans. Mais elle, ça, elle allait là, puis elle aimait ça. T'sais, c'était comme elle, toute entourée. C'est fascinant.
La vie est belle comme une louve qui accouche, ou une chatte, ou une femelle huard qui couve ses œufs. Comment la vie arrive-t-elle à ne pas se ressembler d'une espèce à l'autre, à donner à chaque être une forme, une couleur ou un visage différent? C'est ça qui est beau, il me semble. La reproduction dans l'imperfection, dans le hasard de la beauté et dans la beauté du hasard, dans le pas tout à fait semblable, dans le non-identique. Mais c'est toujours la vie, un peu plus chaque fois. Si les humains se mettent à vouloir la copier, j'ai bien peur que la vie ne s'y retrouve plus et nous abandonne, nous laissant mourir seuls entre les replis de l'argent. Il paraît qu'il y a aussi de l'argent liquide. C'est le sang qu'ils ont inventé pour courir dans les veines du nouveau corps mondial. La fille dit que son espèce n'a plus de veines, justement, seulement de la déveine. Sur ce plan, si éloignée de mon habitat et de mes préoccupations naturelles, j'ai du mal à suivre tout ce qu'elle me raconte. Ça me fatigue à tel point que j'éprouve la très désagréable sensation d'être vidée. Elle vient d'apprendre que la montagne où je love est âgée d'un milliard d'années. Il paraît qu'à cette époque, elle était aussi haute que l'Himalaya. Depuis, elle me regarde différemment. J'ai pris de la valeur. À leurs yeux éphémères, ce qui traverse le temps devient précieux. Elle me demande mon âge. Je ne le sais pas moi-même. Le temps est-il un facteur du bien ou du mal à l'époque où nous vivons? C'est de plus en plus difficile à dire. J'ai connu de longues périodes douces où le temps était suspendu, quasi au repos. Je ne voyais son passage que dans les saisons et les générations d'animaux qui se succédaient, dans les arbres qui vieillissaient et finissaient par mourir debout, une de leurs grandes fiertés. Et puis, vinrent les humains. On ne peut pas nier qu'ils sont là. Il faut maintenant composer avec eux. À cause de la mort qu'ils reçoivent en même temps que la vie, ils sont souvent agressifs avec nous, qui avons reçu une plus grande part d'immortalité qu'eux. Le temps étant relatif, ils passent beaucoup plus vite depuis qu'ils sont là, comme s'ils étaient pressés d'en finir. Je ne désespère pas. Récemment, elle a rencontré une femme dans un livre qui dit à un homme inventé mais qui a vraiment vécu « Que tu aimes le monde, Hubert, pour en avoir porté si tragiquement le poids et avoir voulu avec autant de frénésie en bouleverser à toi seul le cours. » Cette phrase va me donner à réfléchir pour des lunes à venir. L'amour à ce degré-là est une guerre de tous les instants, un paradoxe de plus. Je finis par m'y habituer. Certains humains peuvent avoir envie de livrer cette guerre amoureuse pour être espérants sur la carte énergétique du monde. Ces êtres-là, je serai leur allié. Nous serons leurs alliés.
Même les gens qui ne partageaient pas son avis ne pouvait pas ne pas aimer Hélène, parce que Hélène, c'était un bloc de sincérité, c'était un bloc d'authenticité. Alors comment on ne peut pas ne pas aimer une personne qui est ça? On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas ne pas l'aimer, c'est impossible.
Voilà maintenant qu'elle livre les images que nous avons mises au monde ensemble. Elle m'étonnera toujours. Épilogue. Extrait des carnets de la traductrice. Tipou, ma petite chatte grise, est venue se coucher sur la dernière page des réflexions de Saint-Sébastien et de mes conversations avec lui. Elle refuse de bouger. Elle est chaude et fébrile, en manque de caresses. Je sens qu'elle est sur le point de déclencher une grève si je n'arrête pas immédiatement. Je ne traverserai pas sa ligne de piquetage. Je crois que mon travail de traduction est terminé pour l'instant, hormis un dernier remords de conscience. Je dois avouer, à ma grande honte, que j'ai censuré un épisode important de ma relation avec Saint-Sébastien. Le 11 juillet 1999, sans témoin, j'ai demandé à mon lac de m'épouser. Au même moment, un nuage est venu s'interposer entre le soleil et lui, brouillant ses réflexions. Il a frissonné, agité quelques vagues vers l'est comme un chat qui se met à se lécher longuement sans raison au moment où on lui ouvre la porte. Tout à coup, il m'a paru très vieux. Je ne sais pas s'il m'a entendu, mais je n'ai pas osé répéter ma demande. Dans un excès d'aquamorphisme, qu'on me passe le terme, je jurerais qu'il a souri. Son silence m'a renvoyé à ma nature. Il me manquera toujours 20% d'eau pour être un lac. Saint-Zénon, 6 mars 2000. Vous venez d'entendre un morceau des Carnets du Lac de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Nadia Ringard, Francine Pelletier, Marie-Claire Séguin et Nicole Boudreau. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux. En petit post-scriptum de cette première série de balados, j'aimerais vous inviter à aller découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la chanson « Le lac Saint-Sébastien », écrite par Anne Sylvestre à partir de ses « Carnets du lac » de Hélène Pedneau que vous venez d'écouter. Merci et à bientôt.